Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip larges Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC. RMC Estelle Midi.
Ambiance, l'année du jour, l'année 2022, celle que nous sommes en train de vivre et qui pourrait bien être celle de tous les records météo en France avec ce drame survenu, on le disait, on l'entendait dans le journal de Romain Cluzel, ces drames survenus ce matin en Corse, au moins 3 morts, une dizaine de blessés, bilan provisoire, lors de très violents orages, de très fortes rafales de vent qui se sont abattues sur l'île, des orages, des pluies diluviennes, des incendies, une sécheresse inédite et Mao, une nouvelle vague de très forte chaleur déjà annoncée pour la semaine prochaine.
Comme les vagues du Covid, celle de la canicule s'enchaîne cet été. La France va connaître la semaine prochaine sa 4e vague de chaleur de l'été. Des nouveaux records de température sont attendus en début de semaine. 35 degrés parfois plus dans le sud-ouest notamment. Et ce n'est qu'un record de plus après cette année 2022, année de tous les records. On a tendance à l'oublier, mais dès le début de l'année, entre le 24 décembre et le 4 janvier, on avait les températures les plus douces relevées depuis 1975. Le 1er janvier 2022, il faisait 26 degrés dans le Gers. Et l'année a continué dans ce sens. Côté température, la journée du 18 juillet a été désignée journée la plus chaude jamais enregistrée en France, tout mois confondu, avec une température maximale moyenne de 37,6 degrés, soit 10 degrés de plus que la normale. Et il n'y a pas que du côté des températures que des records ont été enregistrés. Selon Météo France, le mois de juillet 2022 a tout simplement été le plus sec depuis 1959. Sur l'ensemble du pays, le déficit de précipitations a été d'environ 84%. C'est énorme. Et ce matin encore, vous en parliez, Rémi, à Calvi, en Corse, un record de vent absolu a été battu avec des rafales à 197 km/h. C'est ce qui a entraîné des phénomènes où on a vu récemment des orages suivre la canicule, ce qui rappelle les circonstances de la tempête Alex en 2020, à la suite là aussi d'un été très sec. Cette tempête avait ravagé les vallées de la Roya et de la Vésubie, des phénomènes qui risquent donc de devenir de plus en plus fréquents. Et ce n'est pas un privilège français. Partout dans le monde, des records ont été battus cet été, au Japon, en Belgique, à Hong Kong. Donc plus que jamais, les experts du climat nous appellent à des changements radicaux dans nos comportements du quotidien.
Canicule, sécheresse, incendie, orage, cet été va-t-il vous faire changer de comportement? Vous nous appelez au 3216. Emmanuel, est-ce que tu as déjà changé? Vas changer de comportement?
Ah non, mais tu sais, quand on habite à la campagne, comme moi, j'habite dans un tout petit village bourguignon de 140 habitants, avec une nature absolument magnifique autour de moi, le changement, on le voit depuis longtemps. Je suis arrivée dans ce village en 2005. À l'époque, l'hiver, il faisait moins 10. On avait de la neige assez longuement, à tel point que très régulièrement, je ne pouvais pas emmener les enfants à l'école, donc on se faisait des parties de luge en 3-4 jours, etc. Ça n'existe plus. Depuis 3 ans, il n'y a plus de neige. Il ne fait certainement pas moins 10. Quand on a 0, moins 1, c'est un maximum. Donc le changement, je le vois rien que sur le paysage autour de moi, aussi bien l'hiver que l'été. Là, la Bourgogne, mais je dis la Bourgogne, mais je sais que c'est pas vrai partout en France, est complètement jaune. Enfin, ça a repris un petit peu de vert là depuis qu'il pleut un peu, mais complètement grillé de chez grillé. Ça a des conséquences hallucinantes. Alors déjà pour nous, les particuliers qui vivons à la campagne, je suis pas sûre que les gens des villes s'en rendent compte aussi bien peut-être que nous. Et puis ça a des conséquences horribles sur l'agriculture. C'est un élevage d'éleveurs. De naisseurs bovins, donc c'est du charolais hein, en Bourgogne, de la vache à viande comme on dit, et le problème c'est que les viandes elles n'ont plus rien à manger, elles n'ont plus rien à boire, l'éleveur qui est dans mon village il a commencé à entamer son fourrage d'hiver, je ne sais pas ce qu'il va donner à ses vaches cet hiver, donc c'est catastrophique, c'est absolument catastrophique, donc oui, et qu'est-ce qu'on fait? Ben, moi ça fait un moment que je débranche les prises à la maison, mais c'est des petits trucs hein, ce que j'attends rien du gouvernement, donc je débranche les prises à la maison, je roule à 110 depuis que la guerre en Ukraine a démarré. Je cherche les moyens de pas toujours utiliser ma clim dans la voiture. Cet hiver, on baissera le chauffage un petit peu de 1 ou 2 degrés. Il paraît qu'il faut que ce soit 3 degrés, mais bon, on va essayer de faire au moins 1 ou 2 degrés. Je suis en train de me demander si je vais pas mettre des cuves de récupération au fond de mon jardin pour récupérer toute l'eau de pluie qui tombe. Sauf
quand elle tombe.
Quand elle tombe. En ce moment, sur la Bourgogne, c'est dru, hein. Ça dure pas longtemps, mais alors, c'est... Oh c'est vraiment très très dru. Et tu te dis qu'il faut mettre des bassines de récupération parce que la semaine prochaine, Mao vient de nous dire nouvel épisode de sécheresse. Enfin bon, voilà, on se pose tout un tas de questions et puis aider peut-être les producteurs de lait pour terminer en achetant le lait notamment et les produits laitiers au prix juste et sur des marques comme C'est qui le patron, va peut-être voilà les aider en achetant le lait au prix juste pour que ces gens-là puissent survivre et ne pas partir en faillite parce que on veut économiser 16 euros de budget par an quoi.
Thierry, même question. Est-ce que tu as déjà changé ou tu vas changer ton comportement, tes comportements?
Bien évidemment, on a tous commencé à changer nos comportements et on va continuer à le faire parce qu'on sera contraint de le faire.
Et je suis pas sûr non plus.
Si,
Thierry.
Je pense.
Quand tu vois je ne pointe personne du doigt, mais quand tu vois les ventes qui explosent encore cet été de ventilateurs pour mettre chez soi, des climatiseurs.
Je pense qu'à un moment, il va falloir qu'on change tous. Alors, là où ce qui m'a beaucoup blessé dans ce que tu dis, en fait, quelque part, c'est que tu dis, je n'attends plus rien du gouvernement. Ouais. Et c'est ça qui est très triste. Hein. Parce que quand on demande aux Français ce qu'ils pensent de cette question, 80% des Français sont préoccupés par le climat, mais il n'y en a que 31% qui pensent qu'il s'agit d'une priorité politique. Donc, ça veut dire bien qu'on a un problème entre l'appréhension du problème et les solutions qu'on doit y apporter. Évidemment qu'on va changer nos comportements. On va moins laver sa voiture. Moi, je la lave jamais, je m'en fous. Mais il y a des gens qui sont un petit peu adeptes de ça et qui veulent des voitures absolument impeccables. Il faudra arrêter de le faire. Il faudra adapter nos cultures. Tu parlais tout à l'heure de viande, de race à viande. Il faudra manger moins de viande parce que, je dis pas de ne pas manger de viande du tout, hein, mais manger moins de viande parce que c'est une des filières qui a besoin le plus d'eau.
500 à 700 litres d'eau par kilo de viande.
Il faudra aussi améliorer nos cultures. Le maïs est très en besoin d'eau très très important.
Sauf qu'il sert à nourrir les vaches.
Aussi travailler ça. Oui, mais donc ça va être un comportement global. En revanche, il faut arrêter de culpabiliser le citoyen et faut entamer des politiques ambitieuses. Exemple, rénovation des logements. Aujourd'hui, un cinquième des émissions de gaz à effet de serre, c'est dû au logement et aux passoires énergétiques. Ça créerait des emplois, ça permet de faire des aides ciblées. Donc il faut absolument intervenir là-dessus. Et puis, il faudra qu'on change aussi nos comportements. Tout bête. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les feuilles des arbres sont tombées beaucoup plus tôt cette année, pas à l'automne, il y en a déjà qui sont tombées de la sécheresse.
C'est complètement vrai.
Elles ont donc bouché toutes les évacuations et du coup, quand il y a des pluies très importantes, eh bien, l'eau ne s'évacue pas. Il va falloir qu'on repense complètement tout le fonctionnement de notre société.
En parlant de responsabilité du citoyen, il y a Yvan qui nous écrit au Direct Studio. Changez quoi? Vous croyez que c'est nous, petits Français, 65 millions, qui allons changer le climat mondial? Tant que les industries chinoises, américaines, indiennes pollueront, autant on ne changera rien à notre petite échelle.
Mais ça, moi, j'ai une réponse à cet auditeur. C'est que le jour où ces multinationales ou ces États comprendront qu'ils ont de l'argent à faire et qu'ils vont sauver leur business en allant vers une transition écologique plus vertueuse, ils iront. Les Chinois commencent à y aller. Oui. Aujourd'hui, il y a des villes en Chine où...
Ils sont vraiment précurseurs en matière d'énergie renouvelable.
Complètement. Ouais. Donc, je pense... Et alors, peut-être que je suis optimiste, peut-être que vous allez me dire que je suis dans un monde de bisounours. Je pense que ces multinationales, toutes, vont comprendre à un moment donné que la seule voie possible, c'est la rénovation, la transformation de leur modèle pour être plus vertueux et donc faire de l'argent et créer de l'emploi. Donc, je suis plus optimiste que l'auditeur.
Alors, Emmanuel, Thierry, vous parliez à l'instant d'élevage, notamment. Hein, tous les deux, vous en avez parlé. Bah, justement, Mathieu est avec nous au 32-16. Bonjour, Mathieu.
Bonjour.
Merci
Bonjour.
D'être avec nous dans Estelle Midi sur RMC. Vous nous appelez depuis le département de la Sarthe. On est à Saint-Vincent-des-Prés, c'est ça, Mathieu?
Voilà, c'est ça, tout au nord de la Sarthe.
Ouais. Très bien. Et alors, justement, je disais pourquoi, justement, ça tombe bien parce que Mathieu est là. Et vous êtes agriculteur, éleveur bovin, c'est ça?
C'est ça. Nous on fait de la viande avec de la race limousine. On a à peu près 150 mères, on va dire.
Alors, donc, vous avez conscience que face au réchauffement climatique, face à ce qu'on est en train de vivre là, vous avez conscience du problème évidemment, mais est-ce que vous avez déjà commencé à changer votre comportement?
Bah déjà, alors pour juste répondre tout à l'heure à Thierry, alors le maïs, oui le maïs ça consomme de l'eau, alors faut savoir déjà quand on va chez les tantes, on est très très peu consommateur du maïs, donc on fait très peu de maïs, on fait le minimum, on utilise au maximum de l'herbe, déjà d'une
Super.
Part. D'autre part, le nombre de litres d'eau qu'il faut pour faire un kilo de viande, ce que vous parlez, vous comptez l'eau qui tombe sur les prairies d'hiver, il faut compter toute l'eau, on va dire.
Oui, c'est pas en eau utile. Vous avez raison, il faut le préciser.
Alors, il faut le préciser parce que ça, c'est aberrant de lancer des chiffres comme ça.
Attendez, vous savez quel était le chiffre faux qui circule absolument partout ? C'est 15 000 litres d'eau par kilo de viande. Et c'est un chiffre qu'il faut absolument combattre parce que c'est pas vrai, quoi.
C'est pas vrai. Mais même, je veux dire, les vaches, elles sont. L'élevage de vaches de viande, on va dire, il n'y a pas plus respectueux et naturel que l'environnement. On prend ce que l'environnement nous donne et on ne force pas la nature.
Vous avez un cheptel de combien ?
150
mères.
150 et est-ce que vous aussi, vous avez été obligé, Mathieu, de sacrifier quelques vaches, de les emmener à l'abattoir pour ne pas trop taper dans le fourrage d'hiver ?
Alors, je vais vous dire, alors là, nous, on tape dans les stocks. Ouais. Par contre, on a fait des cultures cette année. On va dire qu'on a eu un peu, on va dire qu'on a eu une défaite. On a fait des cultures de sorgho, donc Thierry, on a parlé régulièrement.
Absolument.
Le midi, on a fait 15 hectares de sorgho, donc qui a très bien donné cette année. Et en plus, c'est en deux coupes, donc on va ramasser beaucoup de fourrage. Après, le reste du complément, demain, on va baisser en vache, mais c'est pas qu'une raison, on va dire, de nourriture. C'est aussi une raison que ce qu'il faut acheter en complément coûte très cher. Et aujourd'hui, en fin de compte, de faire de l'élevage, c'est très peu rentable. C'est très peu rentable, donc du coup d'acheter la nourriture s'il en manque, c'est pas la peine. Et aujourd'hui, il vaut mieux faire la céréale.
Et autour de vous, parce que à vous écouter, Mathieu, vous avez vous donnez en tout cas l'impression d'avoir un comportement exemplaire.
Il a anticipé
les problèmes.
J'ai pas peur d'utiliser le mot. Autour de vous, parmi vos collègues, est-ce que la tendance est la même ou pas?
Ah oui. Enfin, nous en élevage à l'étang, je vous dis, on fonctionne tous à peu près pareil. On va dire que si en élevage à l'étang, vous n'êtes pas en autonomie, en autarcie avec la nature, déjà tous les élevages qui n'y étaient pas ne sont plus là. Économiquement, c'est pas viable du tout.
C'est un changement forcé, quoi.
Oui, de toute façon, l'économique fait. On va dire, moi, je suis installé depuis 2016. En fin de compte, vous savez, depuis 2016, si vous regardez un peu le dérèglement climatique qui s'est accéléré. C'est, on va dire, depuis 2016. Moi, j'ai jamais connu, entre guillemets, une année normale comme mes parents ont pu connaître avant. C'est-à-dire que c'est un coup vraiment beaucoup d'eau, un coup des grosses chaleurs, des grosses périodes de sec. Donc oui, on s'adapte déjà.
Obligé d'anticiper, de toute façon.
Voilà, on le sait, donc en fin de compte, on s'adapte, quoi. On n'a pas le choix, quoi.
Et vous avez envie de continuer ?
Oui, on continuera, parce que moi, je suis un vrai passionné de l'élevage, et j'adore ça, on continuera. Par contre, demain, c'est sûr que moi j'ai un gros élevage, on va dire. Demain, il y en aura peut-être deux fois, moi, ouais, c'est sûr, sur l'exploitation. Mais c'est pas qu'une raison. Si vous voulez, quand vous dites, Thierry, il dit tout à l'heure, il faut manger moins de viande. Oui, il faut manger moins de viande. Attention, parce que nous, la viande qu'on produit en France, c'est pas celle-là qu'il faut moins manger.
On va dire les choses, manger moins n'importe quoi, c'est-à-dire privilégier, moins, mais privilégier la qualité et pour le coup mettre le prix.
Le problème, c'est que si on mange aussi moins, il faut savoir que les Français, et vous et tous vos collègues, vous produisez aussi pour l'export. Et il y a des pays qui dépendent de nous, il y a l'Afrique qui dépendent de, de la France, mais qui dépendent de l'Europe. Tout réduire non plus parce qu'on nourrit aussi une partie de l'Afrique avec ce qu'on fait.
Merci Mathieu d'avoir été avec nous depuis Saint-Vincent-des-Prés. Dans la Sarthe, Xavier nous rejoint au 32-16. Bonjour Xavier.
Bonjour l'équipe.
On est à Antibes, que je connais, une très magnifique ville, Antibes, dans les Alpes-Maritimes.
La plus belle.
Ouais, je dirais pas la plus belle, mais une des plus belles. Allez, on va pas faire de jaloux. Vous avez eu à souffrir des intempéries ces derniers jours, Xavier ?
Oui, alors tout à l'heure vous avez réévoqué la tempête Alex. C'est quelque chose qui est très ancré dans notre esprit ici. Moi, quand je pars en vacances ou en week-end, je monte dans l'arrière-pays. Et les stigmates sont encore extrêmement présents, donc c'est quelque chose pour les maralpins en tout cas qui est bien ancré en tête. On sait tous qu'il y a eu un problème dramatique avec cette tempête, et cette année on a souffert de la chaleur énormément aussi. Et quelqu'un disait tout à l'heure, je ne sais pas si les urbains s'en rendent compte. Si, les urbains ils s'en rendent extrêmement compte.
Bien sûr.
Parce que pour aller chercher le frais en ville, il n'y en a pas. Enfin, nous encore on a de la chance en Tibes, il y a un microclimat qui est dû aux entrées maritimes. Vous avez la petite brise, ça rafraîchit un petit peu, mais cet été c'était insoutenable. Pendant les périodes de forte chaleur dans la journée, on ne pouvait pas sortir. Donc on est très conscient de la modification. Alors, en tout cas du climat.
Très conscient, et est-ce que par le fait vous avez changé votre comportement déjà ?
Ah oui, et c'est ce que je disais en appelant, c'est que moi je l'ai fait. Enfin nous l'avons fait dans mon foyer avec ma femme et ma fille notamment. On l'a fait de manière assez naturelle en fait. C'est bon, sous la pression de notre fille aussi qui à l'école a été très sensibilisée. Elle a 8 ans et demi.
Elle a 8 ans et demi.
Très sensibilisée à la cause, à la planète.
Les écoles font un travail génial par rapport aux enfants.
Et elle vous a dit quoi?
Mais en fait, elle nous met la pression en permanence. Si vous oubliez d'éteindre une lumière, vous vient éteindre derrière vous.
Quand
vous
passez, vous avez un couloir. Faut l'amener chez moi parce que moi, je fais la guerre encore. Faut l'amener chez moi parce que moi, c'est, je fais la guerre à mes enfants.
On n'est pas loin de la dictature. Mais du coup, c'est très bien parce que ça prouve quand même que l'éducation, quand on part de la base, on peut avoir des résultats. Alors, des fois, elle est un peu extrémiste, on la remet. Mais quand vous faites un peu de compost, quand vous faites un peu de tri, toutes ces choses-là, c'est les gestes du quotidien. Après, on est conscient quand même que c'est pas ça qui va transformer la
vie. Non, mais il n'y a pas de petits gestes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Thierry. C'est facile de toujours dire, oui, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Bon, c'est les grandes entreprises qui doivent faire. Puis une fois que les grandes entreprises s'y mettent, on dit, oui, mais non, regardez, les Chinois, ils font rien. Dans ce cas-là, on fait rien, on regarde le train passer et on attend, quoi.
Mais ça, Rémi, moi, j'appelle pas ça de l'écologie, j'appelle ça du civisme. Mmh, en fait, c'est une action civique. Et il y a aussi une différence sociale, il faut quand même le dire, quand vous avez les moyens d'avoir un bâtiment qui est isolé, une maison qui est isolée, de vivre en maison d'ailleurs, c'est pas forcément un appartement, vous pouvez faire des choses. Il y a une fracture sociale quand même à ce niveau-là, qui fait que des fois le message est un peu culpabilisant, est un petit peu injuste pour ceux qui aimeraient pouvoir participer à ça et qui ne le font pas.
Alors, on va quand même dire que le gouvernement a lancé l'isolation à 1%.
C'est en bois, ça. Le gouvernement, non, honnêtement, c'est pas contrôlé. Ça, moi, je suis contre cet État qui dépense des millions d'euros. Mmh. C'est mes impôts, c'est les vôtres. Oui. Et qui contrôle rien de ce qui se passe. Non,
et puis voilà, c'est exactement. Puis on le sait que même ma prime rénov, le nombre de dossiers qui sont en souffrance et le nombre de, par rapport au nombre de demandes, c'est sans commune mesure. Merci Xavier d'avoir été avec nous depuis Antibes. Tiens, justement, on va poser la question à un spécialiste du domaine parce qu'il se bat pour ce sujet en particulier. C'est Quentin Jouffre qui nous rejoint. Bonjour Quentin Jouffre.
Bonjour Rémi.
Merci d'être avec nous. Vous êtes militant écologiste de l'association Dernière Rénovation. Vous avez fait pas mal parler de vous ces derniers temps avec des actions coup de poing qui sont parfois critiquées, mais vous, votre discours, c'est justement les experts du climat nous demandent des mesures radicales, et justement c'est la radicalité qui doit faire bouger les choses en attendant que le politique réagisse. Quentin Jouffre, ce qui se passe là cet été en France, évidemment c'est dramatique. Je parle des incendies, je parle de la sécheresse pour les agriculteurs, on en avait un avec nous à l'instant, on parle de ces drames survenus ce matin en Corse, au moins 3 morts et une dizaine de blessés dans de très violents orages. Évidemment, ça ne ravit personne, mais est-ce que vous vous dites, on y est et peut-être que les gens vont prendre conscience?
Alors, effectivement, je pense que malheureusement, les événements climatiques et météorologiques qu'on a eu cet été contribuent à prendre conscience. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un 15-20 mètres carrés et que vous vivez des pics de chaleur dans un lieu de chaleur urbain et que vous êtes obligé d'aller dans des parcs pour chercher un brin de fraîcheur, pour essayer de pouvoir dormir la nuit, parce que chez vous, c'est une étuve. Quand vous avez des ponts qui sont détruits par de la pluie et les intempéries extrêmement intenses après des périodes de sécheresse, quand vous avez des agriculteurs, votre auditeur juste avant, qui voient leur champ être complètement sec et en incapacité de l'irriguer parce qu'il y a des rationnements sur l'eau. Je pense qu'effectivement, on prend conscience, les Français ne sont pas dupes, arrêtons de prendre les gens pour des idiots. Je pense que les gens se rendent bien compte de leur vie, que ça s'intensifie et que ça s'accélère et que ça va beaucoup plus vite d'ailleurs que les prévisions. Et à ce sujet, j'aimerais juste qu'autour de la table, on se réjouit tous, qu'on sourit, parce qu'en fait, aujourd'hui, on peut célébrer le fait on est en train de clôturer l'un des étés les plus frais de la fin de nos vies respectives, parce qu'en fait, on sait très bien qu'il y a un phénomène d'emballement climatique qui fait que les prochains étés, les prochaines années vont être encore plus pires, et qu'aujourd'hui, pour éviter cette catastrophe, des conditions de vie apocalyptiques en fait, dans lesquelles ça devient vraiment la normalité, on a une fenêtre d'action qui se réduit de plus en plus. On a une fenêtre d'action extrêmement restreinte pour agir et essayer de réduire nos émissions et s'y adapter de l'ordre de 2 à 3 ans, et qu'aujourd'hui on ne met pas du tout en place. Il y a une dissymétrie totale des responsabilités. Là, je vous entendais parler beaucoup des gestes individuels que je soutiens, je me réjouis, mais je pense qu'il y a vraiment un contre-discours, et c'est contre-productif de systématiquement renvoyer la charge sur le citoyen. Je m'aligne vachement avec Thierry juste avant ce qui a été dit.
Ah, mais je suis d'accord, c'est juste que j'y crois plus, quoi.
Ouais, mais on n'y croit plus. Mais si vous voulez, qu'est-ce qu'on fait ? C'est ce qu'on porte avec des rénovations, c'est qu'on veut sortir de ce fatalisme-là.
Justement, Quentin Jouffre, ça tombe très bien parce que restez avec nous, Quentin Jouffre. Je voudrais vous faire dialoguer avec Franck qui nous appelle au 32-16. Bonjour Franck.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous dans Restez le Midi sur RMC. Vous appelez depuis chez moi, à Lille dans le Nord. Et Lille dans le Nord, enfin le Nord d'ailleurs, on est en vigilance rouge sécheresse, c'est partout aujourd'hui.
Vous êtes en rouge dans le Nord ?
Absolument.
On est en vigilance tout court en Bourgogne, et orange un peu.
Comme d'autres, c'est catastrophique au niveau de la sécheresse. Franck, vous, d'après, j'ai une petite fiche qui me décrit ce que vous nous dites. Franck, Quentin nous disait, il faut pas se résoudre au fatalisme. Vous êtes un peu fataliste, vous.
Moi, je suis très pessimiste parce que, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, la situation, elle est catastrophique. On sait depuis 30, 40 ans qu'il fallait modifier nos comportements. C'est pas aujourd'hui qu'il faut changer nos comportements. Il est bien trop tard. Et on parle uniquement du réchauffement climatique, mais il y a aussi tout le reste. On détruit la nature, il y a des espèces animales qui disparaissent chaque jour un peu plus. 50 ou 60% des espèces animales disparaissent aujourd'hui sur la planète. Je pense que d'une manière générale, au niveau mondial, la réalité, c'est que tout le monde s'en moque du réchauffement climatique. On sait qu'effectivement, au quotidien, on peut voir qu'effectivement, il y a un problème. Mais dans le quotidien au niveau mondial, tout le monde s'en moque. Et c'est pas nos petits gestes aujourd'hui qui va changer quoi que ce soit. On le sait que ça s'emballe. On le sait que ça va beaucoup plus vite que prévu. On est déjà à 2 à 3% de réchauffement climatique en plus. Et on pense qu'on va partir sur 4, 5, voire 6%, donc 6 degrés. Donc je pense que malheureusement, on va donner... moi, j'ai des enfants qui ont 20 ans aujourd'hui. On va donner une planète qui va mourir. Malheureusement, on en est là aujourd'hui.
Franck, je voudrais faire justement réagir Quentin. Lorsque vous entendez ce que dit Franck, qui est conscient de cette problématique, mais qui se sent désespéré, qu'est-ce que vous lui dites pour essayer de le convaincre?
Moi, je comprends la détresse de Franck et je comprends, je partage aussi une partie de son constat maintenant. Moi, je refuse. J'ai 24 ans, je refuse qu'on me condamne mon avenir, ok? Je refuse qu'on condamne l'avenir de mes concitoyens et mes concitoyennes. Et face à ça, on a un gouvernement qui aujourd'hui a les capacités d'agir et qui ne met pas en place ce pourquoi il est censé agir. Donc, aujourd'hui, on arrive avec une proposition. Nous, on a une proposition en dernière rénovation. On a épuisé tout l'arsenal politique qu'on avait à disposition et on n'a plus le choix aujourd'hui. Vu l'urgence, je veux dire, on le partage tous, là, vu l'urgence de la situation, il faut qu'on rentre en résistance civile, qu'on engage un.
Mais c'est pas en bloquant le périphérique. Excusez-moi, Quentin, mais c'est pas en bloquant le périphérique et en bloquant des voitures que vous ferez avancer la cause. Je pense qu'il faut emmener la population avec vous et non pas faire des manifestations qui sont contre la population. Je trouve ça totalement contre-productif.
On n'est pas contre la population, simplement avec les moyens.
Dans vos actions, si.
Faire entendre ce débat-là et pour que je puisse aujourd'hui débattre avec vous de cette urgence-là et de la rénovation thermique des bâtiments qui est absolument pas mis en place. Vous le disiez vous-même, il faut 1900 ans. Il faudrait 1900 ans pour terminer la rénovation thermique qui a été engagée par Emmanuel Macron et son gouvernement. 1900 ans. Clovis, il aurait commencé, il n'aurait même pas terminé. Il ne serait même pas terminé aujourd'hui. S'il vous plaît, il faut arrêter. Il faut rentrer dans un rapport de force par rapport au gouvernement. On a besoin d'un soulèvement populaire. Et moi, je mets en garde le gouvernement et les députés qu'aujourd'hui, il y a des millions de personnes, y compris moi, qui allons venir chercher dans la rue, réclamer la justice que le gouvernement et les députés ne sont pas incapables de nous donner sur cette mesure-là. Parce qu'on refuse, par notre corps et par nos actions, de condamner et d'avoir un avenir condamné à un apocalypse climatique.
La colère de Quentin Jouffre.
L'insurrection n'est pas une solution.
On partage ou pas. En tout cas, il y a une véritable colère. On l'entend. Il y a un désespoir chez Franck. Et Franck, il n'a pas pu intervenir longtemps, mais on est pris par le temps, justement. Mais il y avait le désespoir de Franck. Merci à lui de nous avoir appelé depuis Lille, dans le Nord, au 32-16. Et puis, la colère de Quentin Jouffre. On vous a posé cette question, canicule, sécheresse, incendie, orage, cet été va-t-il vous faire changer de comportement? La réponse, Mao.
Et la réponse, nos auditeurs ne pensent pas du tout comme nos chroniqueurs. 66% d'entre eux répondent non, ils ne vont pas changer de comportement.
Je vous l'avais dit.
Mais peut-être aussi par désespoir, enfin pas par désespoir, mais par fatalisme et renvoi de la responsabilité.
Je te dis que les citadins ne se rendent pas compte.
Et de la responsabilité. Non, je ne suis pas sûr.
Mais non, mais nos auditeurs ne sont pas citadins.
C'est surtout, je pense, renvoi de la responsabilité aux décideurs politiques. Pourquoi moi, je changerais mon comportement alors qu'eux ne feront rien? En tout cas, on aura... J'allais dire, malheureusement, l'occasion de reparler de ce sujet.
Ouais. RMC Football. Samedi 4 mai à 15h, au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine, le 4 mai à Montpellier, avec RMC.